Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi où nous allons vous parler évidemment de football avec l'OM. Strass et Payet pour l'OM grâce à son meneur de jeu étincelant. L'OM reste dauphin du PSG aux dépens des Verts. Dimitri Payet peut-il redevenir un homme de Didier Deschamps pour l'Euro qui commence dans 5 mois? A-t-il encore la cote? L'OL loin du podium et loin de l'Europe. Les Lyonnais doivent-ils envisager une saison de transition sans qualification européenne? Le changement d'entraîneur de Rudy Garcia à la place de Silvinho a-t-il servi à quelque chose ou est-ce seulement la faute de Rudy Garcia et pas celle des joueurs qui n'ont pas l'air d'aider beaucoup cependant? Les compétitions africaines dans leur phase quart de finale, tant pour la Ligue des Champions que pour la Coupe de la Confédération. De belles rencontres en perspective entre grands clubs aguerris, donc au sommet de ces compétitions. Et nous en parlerons dans cette émission, notamment avec Christophe Jousset qui viendra nous rejoindre. Mais avant, je voudrais donner la bienvenue à un invité dans ce studio aujourd'hui. Bonjour Thierry Grand-Tourcault.
Bonjour.
Merci d'être ici. Alors, vous êtes un avocat. Mais vous n'allez pas plaider aujourd'hui, n'est-ce pas, à ce micro. Vous avez bien failli, en fait, être footballeur. Hein, c'était du côté de Lyon.
Oui, bah c'était à une époque où le football se jouait encore avec des pots de bêtes et des ballons en pierre. Donc oui, c'était il y a très longtemps.
Bon, vous avez failli, mais du coup, vous avez gardé un œil sur ce milieu. D'abord, vous êtes président d'un club amateur.
Oui.
En Normandie.
En Normandie, pour me faire plaisir. Voilà. Loin des paillettes du foot professionnel.
Ah, mais ça vous ferait peut-être pas de mal, hein, Dimitri Payet dans vos rangs. À l'AS Villers-Houlgate, donc
ça.
C'est en Normandie.
C'est ça.
Mais vous êtes surtout spécialiste des contrats sportifs, des contrats de joueurs. Et justement, nous allons parler de ces jeunes qui mordent un peu la main qui les nourrit ou qui les a nourris. Ces jeunes qui refusent de signer dans leur club formateur. Nos confrères de l'équipe ont appelé ces gamins des Wonder Kids. Un exemple qui apparemment se généralise dans l'industrie. Qui est devenu le football et nous en parlerons grâce notamment aussi à Salim Baumgali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Notre confrère de RMC Sport. Il y a aussi Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Camarade de France Football et puis notre chef à tous, Alejandro Valente. Bonjour Jefe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il fait un petit tour aujourd'hui dans Radio Foot avant le Café des Sports. Il se met en route, Alejandro.
Mais c'est pas pour parler du Barça.
Peut-être, on sait pas. Radio Foot, c'est parti.
Rennes mène à 0 grâce au premier but en pro du jeune milieu de 17 ans, Eduardo Camavinga.
En dessous, Fadi, incroyable destin pour ce joueur. Il marque son premier but au Camp Nou, 16 ans, ça fait sourire le patron Lionel Messi.
Il n'a que 18 ans et tous les yeux sont actuellement braqués sur lui.
Il sait faire des choses que les autres ne font pas à son âge.
Ce jeune garçon de 18 ans possède un talent hors norme.
La nouvelle star du foot français.
Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça.
Il a quelque chose de plus que les autres.
Kylian Mbappé est un prodige.
Dans le football actuel, il n'y a plus de jeunes moins jeunes. T'es bon, tu joues.
Ce gamin, Camavinga.
Vous n'avez pas fini d'en entendre parler.
On les admire déjà, mais ils sont encore si jeunes. Kylian Mbappé, Moïse Keane, Nicolò Zaniolo sont apparus dans des équipes professionnelles avant même leurs 18 ans. Aujourd'hui, ils s'appellent Eduardo Camavinga, milieu de 17 ans à Rennes. Ansu Fati, buteur du Barça à 17 ans et demi à peine. Tanguy Kouassi, défenseur du PSG à 17 ans. Les pépites du football mondial se multiplient, voire se banalisent. Selon Opta, on a calculé que 50 joueurs de moins de 17 ans avait débuté dans un des 5 championnats européens depuis 2009. Alors avec des joueurs, des dirigeants, des agents et des parents qui soudain entrent dans la danse des signatures de contrats, en espérant des contrats juteux, et bien évidemment, ça donne de drôles d'histoires. Par exemple, celle de ce jeune Isaac Liadji, formé par l'OM et qui, au moment de signer son premier contrat pro, c'était à la mi-janvier, et bien il s'est embrouillé avec son club. Le directeur sportif Andoni Zubizarreta a mis fin définitivement, a-t-il dit, aux négociations avec ce minot, avec ses représentants, surtout en refusant les exigences demandées en échange de la signature. Alors, Maître Grand-Tourcault, il y a ces bras de fer qui sont devenus emblématiques entre ces jeunes et leur club, mais j'aimerais quand même que vous nous racontiez la première histoire, celle qui finalement a quand même tout bouleversé, et vous étiez un peu à l'origine de tout cela, puisque vous étiez l'avocat d'un joueur en 2010 qui a réussi finalement à s'émanciper de son club formateur pour partir.
Oui, alors il faut déjà savoir que les transferts de joueurs en formation ont longtemps été interdits, hein, notamment en France, puisque la charte du football professionnel obligeait les joueurs en formation à signer leur premier contrat pro dans le club formateur. Il y a eu l'arrêt Bosman en 1995 qui a
transformé le football européen.
Oui, d'une part, mais il a surtout établi qu'un joueur pouvait exercer sa liberté de circulation en tant que travailleur au sein de l'Union européenne et donc de quitter un club pour un autre lorsqu'il était notamment en fin de contrat et lorsqu'il ne l'était pas contre indemnité. La question qui s'est posée après, c'était de se dire, mais finalement, est-ce que cette jurisprudence Bosman de 1995 s'applique-t-elle aux jeunes en formation ? Et Olivier Bernard, qui était un jeune joueur de l'Olympique Lyonnais, avait décidé de ne pas signer à l'Olympique Lyonnais à l'issue de sa formation et de signer à Newcastle. Voilà, donc Lyon a essayé de le bloquer, Newcastle est passé outre, l'a fait signer, son contrat a été enregistré, il a pu jouer en Angleterre. Une bagarre judiciaire s'est engagée.
Et vous étiez l'avocat du joueur.
J'étais l'avocat du joueur et on a gagné devant la Cour de justice de l'Union européenne en 2010, qui a donc établi que ce qui valait pour l'arrêt Bosman et des joueurs professionnels sous contrat devait aussi valoir pour des joueurs stagiaires en formation. Ils pouvaient aussi pouvoir exercer leur liberté de circulation.
Mais depuis 2010, est-ce que quand on voit l'exemple de ce joueur de l'OM, de Isaac Liadji, vous pensez que finalement ça a été détourné, que ça devient une mauvaise illustration ?
Moi, ce que je pense, c'est que le football a changé, de manière générale.
Depuis 2010 ?
Non, depuis 1995.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un joueur est devenu vraiment maintenant, il est devenu une valeur marchande qui n'était pas avant 1995. Et cette valeur marchande, elle augmente aussi en fonction de l'âge du joueur. Il y a différents paramètres qui permettent à un joueur d'être valorisé. Son âge, c'est un paramètre essentiel. Ce qui veut dire qu'un jeune joueur aujourd'hui, il a une valeur marchande extraordinairement élevée s'il est prometteur. Donc ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que les clubs ont tendance à les faire jouer plus tôt qu'avant. Parce que plus vite ils les mettent en vitrine, si j'ose dire.
Et mieux ils les vendront.
Mieux ils les vendront. Parce que vendre un joueur jeune, c'est le vendre beaucoup plus cher que s'il était plus âgé. La deuxième conséquence, c'est que les joueurs et leurs représentants, ils l'ont bien compris. Et en se disant que manifestement, si les clubs peuvent faire, j'ai envie de dire, des affaires financières sur leur dos, il n'est pas exclu qu'ils puissent en faire eux-mêmes, en bénéficier eux-mêmes, et bénéficier des contrats à haute valeur ajoutée plus tôt qu'avant. Donc les jeunes ont intégré le fait aussi qu'à 18-19 ans, ils pouvaient être gourmands. Leurs agents l'ont intégré aussi, les familles aussi. Donc, excusez-moi, je vais jusqu'au bout.
Oui,
ce n'est pas seulement, je vais dire, un problème lié à la psychologie des garçons, de leurs agents ou de leurs familles.
C'est le monde d'aujourd'hui.
Oui, c'est le football d'aujourd'hui qui génère aussi un petit peu ce genre de situation.
Salim.
C'est là où clairement les rapports de force ont totalement changé. Avant 95, c'était les clubs qui avaient le pouvoir. Depuis, et petit à petit, sont désormais les jeunes, les joueurs et les jeunes et leur entourage, leur agent et autres familles, le Caliadji. Mais il y a eu tellement de cas où désormais les joueurs savent que, écoute, il faut que tu m'augmentes là, il faut que tu me donnes un meilleur salaire. Si tu me donnes pas de meilleur salaire, t'inquiète pas qu'il y aura un autre club qui sera là, deux autres clubs, trois autres clubs qui eux me proposeront ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, les joueurs ont le pouvoir et les équipes sont obligées de s'adapter ou sinon de perdre leurs joueurs.
Alejandro.
Oui, mais c'est un pouvoir dont on peut difficilement mesurer l'intérêt véritable pour le joueur. Et c'est-à-dire que le fait de signer un bon contrat financier va lui garantir une belle carrière. C'est pas forcément le cas. On a connu des cas où c'était vraiment comme ça.
Est-ce qu'Olivier Bernard a fait une belle carrière ?
Alors, il se trouve qu'il a eu un gros problème de santé, qu'il n'a pas pu faire carrière. Mais il était parti pour en faire une bonne de carrière. Non, vous avez raison, ça c'est la vraie question. Derrière, partir tôt pour un très beau premier contrat ne garantit en rien
de faire
une belle carrière. Ça garantit juste de terme. Signer un très
Est-ce
beau contrat.
Est-ce qu'à contrario, alors, rester dans le club formateur, ça peut garantir une belle carrière ?
C'est compliqué.
Sécurisé.
Oui, bon, on a plus de chances, de performer, de continuer à grandir dans son club formateur que pour un jeune de 17 ans, de traverser la Manche, d'aller dans l'Angleterre, jouer un football complètement différent. rentrer dans une académie avec des joueurs qui parlent pas le français. Enfin, c'est, ça me semble beaucoup plus risqué à cet âge-là de partir à l'étranger que d'essayer de grandir dans son club formateur.
Après, il faut aussi dire que par rapport à la scène européenne, c'est une particularité qui est beaucoup plus française qu'autre chose, parce qu'il faut rappeler que la France est devenue un pays exportateur, puisque rapidement, les joueurs confirmés quittent le championnat de France. Il y a un appel d'air qui laisse rapidement de la place aux jeunes joueurs. C'est une segmentation du marché, c'est de la spéculation sur des jeunes à fort potentiel. Vous parliez du cas d'Olivier Bernard. Moi, il y a pour moi un autre cas effectivement symptomatique et qui a fait jurisprudence et qui a participé à l'inflation de ces premiers cas. Non, c'est pas Anelka, c'est Kingsley Coman du côté du Paris Saint-Germain. Il est parti libre. À partir de ce moment-là, c'était un produit de la formation parisienne. On l'a laissé jouer en U19 sur du synthétique et on l'a jamais réellement valorisé. Alors, on s'est renvoyé la balle entre Olivier Létang et Laurent Blanc, mais résultat des courses, Nasser El Khelaifi et les Qataris ont pété les plombs parce que quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils se disent qu'ils sont là pour avoir les Messi de demain et ils avaient un joueur
potentiellement.
Et donc, à partir de là, au niveau du PSG qui aujourd'hui regroupe une forte densité des talents. En France, il y a eu ce rapport de force qui s'est installé et n'importe quel joueur quasiment qui fait sa formation au Paris Saint-Germain qui se retrouve à la porte d'un premier contrat professionnel va négocier très favorablement son premier contrat. Sinon, du côté dans la psychologie des dirigeants parisiens, on a peur de le perdre et d'avoir un nouveau cas Coman qui va aller flamber au Bayern, à la Juve, alors que c'est le Paris Saint-Germain qui l'a formé. Ensuite, c'est un terrain de chasse pour aujourd'hui des équipes qui travaillent sur le trending de joueurs, comme les équipes qu'on entend souvent aujourd'hui, le Red Bull Leipzig, le Red Bull Salzbourg, Lille également, Boubacary Soumaré aujourd'hui, il est parti libre du Paris Saint-Germain, Balotouré, il est parti libre du Paris Saint-Germain. Donc les exemples sont légion et ça a mis la pression sur le Paris Saint-Germain qui a, je dis pas surfacturé, mais qui a surpayé certains premiers contrats professionnels de joueurs qui finalement n'ont pas le potentiel réel de ceux qui sont partis et qui étaient plus forts.
Ils ont le cas avec ce Tanguy Kouassi qu'on a vu l'autre jour jouer plutôt bien. Et du coup, le joueur, effectivement, tout de suite, on se demande, il n'a pas encore signé
après,
son contrat avec le Paris Saint-Germain.
Annie, pour donner des chiffres pour nos auditeurs, pour Liadji, aujourd'hui, l'OM, il lui faut une belle proposition, clairement. Le pactage sportif et financier, il est plus qu'intéressant. C'est 1,5 million à la prime à la signature.
Ce qui est colossal.
Un salaire, je crois, de 50 000. Ensuite, ils veulent le faire jouer parce qu'ils en ont pas sorti beaucoup et pour eux c'est une vraie valeur ajoutée aussi. Mais du côté de Lille par exemple, puisque c'est Lille aujourd'hui qui est en pole position pour le regrouper,
c'est définitivement fini?
Non,
avec
c'est
l'OM.
Pas fini,
c'est jamais
fini tant que t'as pas à poser ta signature.
Oui, c'est un peu du chantage.
Kouassi par exemple, vous prenez l'exemple de Kouassi, mais Kouassi à 95%, il y a un mois ou il y a deux mois, il était au Red Bull Leipzig.
On disait qu'il était à Leipzig,
Et donc pour finir, pour Lille par exemple, Lille propose 3 millions d'euros à la prime à la signature plus un salaire que je ne connais pas et évidemment aussi la possibilité d'un projet sportif.
Mais une question quand même, parce que Maître Grand Turcot dit maintenant c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Je me demande si c'est pas les agents qui ont le pouvoir plutôt. Parce que dans le cas des Liadji, justement, c'est Moussa Sissoko qu'on a bien connu pour avoir organisé les départs de Ousmane Dembélé de Rennes au Borussia Dortmund, puis à Barcelone. Est-ce que c'est l'agent qui est, parce que l'agent touche à chaque transfert. Donc finalement, c'est lui qui est le plus motivé pour faire bouger les joueurs.
Mais écoutez, moi j'ai énormément fait de transferts avec des agents sur les 25 dernières années, j'ai dû en faire 300. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des agents qui sont très sérieux et qui en aucun cas vont pousser le joueur à prendre une décision financière. Ils vont
plus financière que sportive.
Oui, ils vont projeter le joueur dans sa carrière et ils sont capables à un moment donné de dire au garçon, écoute, il y a un beau chèque mais ne le prends pas, c'est pas ton intérêt, continue. Il y a des très bons agents. Et puis, il y a des agents qui meurent de faim, qui vont faire un transfert sur l'année, dans le meilleur des cas. Et ces agents-là, c'est pas toujours effectivement l'intérêt du joueur qu'ils voient en premier.
Après, il faut dire qu'ils ont peur de perdre le joueur. Il y a aussi ça, c'est des mandats de 2 ans avec les joueurs. Et ils sont pas tout seuls parce qu'il y a un environnement également. Et l'environnement peut faire pression sur le joueur. Donc, ça peut être des conseillers, des copains de quartier, de la famille... qui ensuite fait perdre le joueur à l'agent. Donc l'agent, qu'est-ce qu'il se dit? Il est sous pression, il dit, attends, c'est soit je fais le deal, soit le coup d'après, je suis mort, entre guillemets, voilà, pour résumer.
Oui, c'est ça. Et je voulais rajouter que on retrouve aussi des cas où l'agent, même s'il est raisonnable, n'est pas suivi par la famille.
Bah voilà.
Donc c'est quand même un environnement très complexe. Hein.
Sur cette histoire, Liadji, écoutons Nasser Larguette, qui est actuellement le responsable du centre de formation de l'OM. Nous, on l'avait rencontré, hein, Alejandro Valente, au Maroc, à l'époque où il s'occupait du centre de formation Mohamed V, près de Rabat. Nasser Larguette, qui a aussi travaillé avec le Havre et qui actuellement avec l'OM, eh bien, s'occupait de ce cas et explique qu'il l'avait bien mis en garde, ce jeune.
Même le premier contrat pro, ça n'a pas une valeur extraordinaire. Le véritable contrat pro pour lequel vous pouvez négocier et gagner peut-être beaucoup d'argent, c'est le deuxième contrat professionnel. Et j'invite chaque famille qui pense vouloir gagner de l'argent avant d'aller regarder le site du syndicat des joueurs, le nombre de joueurs qui malheureusement parfois sont au chômage, qui sont issus du contrat stagiaire et issus du premier contrat professionnel. Il y en a énormément. Donc aujourd'hui, on met en garde. Je dirais juste une chose par rapport à des joueurs de talent. Très souvent, un joueur qui n'a pas effectué un certain nombre de matchs avec son club formateur et qui veut partir prématurément sous d'autres cieux, parfois se grille les ailes. Je pense que tout joueur qui a du talent, indépendamment de Liadji fait partie comme d'autres joueurs, le club de l'OM est fait pour lui. Les premiers pas qu'il va faire en équipe première, les sollicitations qu'il peut avoir à l'extérieur, il les aura encore plus demain, parce qu'il aura réussi à l'OM. Quand vous réussissez à l'OM, qui est quand même un club phare au niveau français, eh ben, il est capable de rebondir peut-être demain ailleurs.
Il a raison, Thierry Grand-Tourcault, c'est-à-dire que c'est peut-être mieux comme un enfant va grandir un peu choyé dans sa famille plutôt que de partir vers effectivement des sirènes très dorées, mais qui parfois peuvent aussi contribuer à créer plus de difficultés.
Oui, et puis Nasser Larguette, c'est probablement l'un des meilleurs formateurs actuellement en France. Il sait très bien de quoi il parle. Et oui, moi je suis d'avis qu'un joueur qui part avant même d'avoir quelque part réussi dans son club formateur, il se met en danger. Mais malheureusement, comme le disait très bien Nabil, c'est un problème qu'on rencontre en France, parce qu'on est un pays très exportateur de oui. joueurs, qu'on rencontre aussi dans certains pays d'Amérique du Sud, qu'on rencontre très peu finalement dans les autres pays européens. C'est parce qu'on forme très bien nos joueurs aujourd'hui qu'on est devenu une vitrine pour ces jeunes, pour l'ensemble des autres pays européens.
Et qu'on les fait rêver.
Voilà.
On est comme le Brésil.
C'est ça.
En Afrique aussi. Il y a beaucoup de jeunes africains.
Oui.
Et justement, je voulais vous poser une question. Maître, à travers notamment les propos de Nabil il y a quelques minutes, lorsqu'il évoquait le cas à Kingsley Coman, qui a entraîné, de la part des dirigeants parisiens, une hausse des salaires des futurs potentiels stars des jeunes du Paris Saint-Germain, à travers eux et à travers également le championnat anglais. Est-ce que le championnat anglais, et à travers ce qui s'est passé ces dernières années avec une dérégulation totale, des transferts, des salaires, etc. Est-ce que vous avez remarqué une évolution chez certains jeunes qui se disent plus facilement, alors qu'ils ne le pensaient peut-être pas il y a 5, 6, 10 ans, je veux aller en Angleterre maintenant, même en deuxième division, je suis prêt à y aller.
Alors, en deuxième division anglaise, vous avez des salaires plus importants, en moyenne générale, que vous les avez en Ligue 1.
En Ligue 1, tout à fait.
On est bien d'accord là-dessus. Donc l'attrait financier de l'Angleterre, il est même... Il descend même jusqu'à la Ligue 2. J'ai envie de dire,
la Ligue 1, donc la Division 3.
Maintenant, les jeunes dont je me suis occupé ces derniers mois, ces dernières années, via leurs agents, ils veulent jouer en Première Ligue.
Et c'est-à-dire ils pensent que c'est un tremplin.
C'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'esprit puisqu'il y a d'autres jeunes qui réussissent de manière extraordinairement bien, ils se disent, s'ils passent la Manche, c'est non seulement pour gagner beaucoup d'argent, mais pour jouer en Première Ligue. Je n'ai pas rencontré un jeune qui s'est dit, je vais aller jouer en Angleterre en Division 2, en Championship, pour gagner beaucoup d'argent. Des joueurs plus confirmés,
oui.
Mais les jeunes, ils sont dans le rêve. Ils se voient en Première Ligue, ils se voient le Mbappé de demain. Voilà. Et comme dans leur entourage, on ne les calme pas, comme papa et maman y croient aussi, quand ils y croient, si l'agent, lui, il le confirme,
bien sûr.
Alors à ce moment-là, oui, il n'y a pas de souci, ils vont devenir le joueur numéro 42 dans l'effectif
de Stoke. Quoi.
Voilà.
Ouais. Mais maître Grand-Tourcault, donc vous dites il y a des bons agents et des mauvais agents. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de guide Michelin des agents, donc on a du mal à reconnaître les uns des autres. La FIFA, à l'époque de Blatter, avait essayé de mettre un peu d'ordre, il avait joué, il avait reconnu son échec. Oui. Aujourd'hui, Infantino tente à nouveau de reprendre la main, vous croyez que c'est possible aujourd'hui de mettre un peu d'ordre dans ce chaos qui est devenu le monde ?
Vous pouvez limiter le nombre d'agents, vous pouvez peut-être éradiquer du marché un certain nombre de personnes qui n'ont pas leur place sur le marché des agents, mais je crois que...
Si vous c'est laissez... un monde sauvage.
Oui, et puis on est dans le domaine quand même du rêve. C'est-à-dire qu'un gamin qui est en train de sortir d'un centre de formation, qui se voit devenir pro, à qui on fait miroiter un avenir incroyable. Magnifique. Il a un agent qui peut peut-être se projeter de manière intelligente ou pas, avec une licence FIFA ou une licence FFF, peu importe. Il projette le gamin dans une carrière, et puis vous avez la famille qui rêve. Parce que ces gamins, la plupart du temps, ils viennent pas non plus de familles aisées. Donc c'est extraordinairement compliqué. Essayer de rationaliser un transfert, j'aimerais pouvoir vous dire que voilà la règle établie d'un transfert devrait c'est être irrationnel. Celle-ci, mais non, on est dans une histoire extraordinaire qui est en train d'arriver dans une famille qui...
Mais alors, prenons l'exemple de deux jeunes. On peut penser à Coman, Kingsley Coman, qui est donc parti du Paris Saint-Germain en Allemagne.
Qui a fait jurisprudence au PSG.
Qui a fait jurisprudence. Et Ousmane Dembélé, parti aussi très jeune de Rennes, vers l'Allemagne, puis vers... Ces deux joueurs qui se blessent énormément. Alors moi, j'aimerais savoir une chose, parce que j'ai lu pas mal de choses, et notamment, vous disiez qu'il y a aussi les médecins qui rentrent là-dedans et qui rassurent en disant il peut y avoir une multiplication des efforts chez des gamins de 17 ans. On voit comment Cristiano Ronaldo et tout arrive à 35 ans en se ménageant, en s'entretenant. Des jeunes de 17 ans le font peut-être pas aussi bien. Est-ce que c'est pas les mettre en danger et finalement qu'ils se cassent plus jeunes et... Et je pense par exemple à Coman, je pense à Dembélé qui enchaîne les blessures alors qu'il est dans un immense club et qu'il a été payé très cher. On s'en souvient, c'était 140 millions d'euros.
Moi, j'ai vu le discours des médecins changer au fil des années. Oui, il y a quelques années, leur discours était « non, il ne faut pas pousser ». C'est-à-dire qu'il y a un âge physiologique aussi qui fait qu'à un moment donné, un garçon ne peut pas répéter les performances de pro de 25 ou 30 ans. Et j'ai remarqué sur ces 5-10 dernières années, le discours des médecins changeait à ce niveau-là.
Quand même.
Oui, c'est-à-dire que grosso modo, les garçons sont bien accompagnés médicalement, ça va passer. Moi, j'ai l'impression surtout que, que c'est le monde du foot qui a changé, que les médecins s'adaptent aussi.
On a cherché un chiffre et Pierre Guérin a trouvé que Eduardo Camavinga, à 17 ans, a plus joué que tous les autres joueurs de moins de 18 ans des grands championnats à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il joue autant qu'un pro.
Oui.
C'est étonnant.
Mais juste, Salim. Vous parlez du discours des médecins, mais je vais même aller beaucoup plus loin, du discours des supporters, du discours des journalistes et autres qui disent simplement « Ah, mais il est jeune, il est frais, il peut, on l'entend presque tous les jours.
Maintenant.
Il peut jouer 90 minutes sans problème. Celui qui a 36 ans, c'est plus compliqué. Mais il a 18 ans, il a 19 ans. Nous tous, moi le premier, mais comme nous tous, on est là. C'est bon, il est frais, il peut jouer. Non, il n'a que 17 ans, il n'a que 18 ans. Il doit progresser et grandir, j'ai envie de dire, normalement, comme tout être humain au final.
Annie, si vous plaît, je voudrais juste témoigner d'un truc. J'ai souvent fait des matchs de jeunes depuis gamin, notamment du côté du camp des loges, la CFA et tout. Et même le public a évolué. C'est-à-dire qu'avant, on venait pour regarder le match. Maintenant, on vient pour regarder les joueurs. Mmh. Tout ça pour vous dire qu'il y en a qui rêvent de devenir joueur, mais il y en a qui rêvent de devenir agent aussi.
Bien sûr.
Quand je vais en tribune, je suis mort de rire. Parce qu'on vient de parler et tout. Tu fais quoi là? Ah bah je suis venu voir lui. Tu fais quoi lui? Ah bah je suis venu voir lui. C'est aussi ça. Il y a une appétence incroyable. Pourquoi? Parce que on pense que c'est la poule aux œufs d'or qui est devant
nous. Et au-delà, tu prends l'exemple du camp des loges à juste titre, mais pour le coup, l'Île-de-France est connue pour être une région où on sort énormément, en tout cas potentiellement des joueurs très intéressants, et on sait qu'en Île-de-France, à chaque week-end, vous pouvez aller sur de très nombreux stades et vous avez des recruteurs de clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de clubs étrangers qui veulent voir les U14, U15, U17. Ah, c'est qui cet attaquant? Qui milieu dont j'ai entendu parler? Il faut que je le voie en premier, etc., etc. Donc, aujourd'hui, chaque week-end, malheureusement, on cherche cette fameuse poule aux œufs.
On a vu la Coupe du Monde des moins de 17 ans, il y a quelques semaines au Brésil.
Où il y avait plus de recruteurs qu'autre chose.
Les joueurs étaient déjà plus ou moins dans l'orbite des grands clubs.
C'est vrai.
La morale de cette histoire, Maître Grand Tourcault, parce qu'on va passer au football sur les terrains. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes, et notamment en Afrique où on nous écoute beaucoup, où alors là, les agents veulent s'empresser à la moindre pépite, n'est-ce pas, puisque le mot s'est tellement banalisé, oui, de les embarquer vers l'Europe, et on sait qu'il y en a tellement qui échouent bien loin d'un terrain de football et d'un club de football. Qu'est-ce qui vaut mieux ? D'abord briller là où finalement on a été élevé ?
Ah oui, lorsque c'est possible, oui. Alors le problème des Africains, c'est encore différent, parce que pour briller, ils ont besoin de venir en Europe. Donc ils sont dans une situation.
Oui, mais il y a des clubs ou des centres de formation. Je pense à ceux du Sénégal notamment qu'on connaît ici, oui, à Radio Foot pour y être allé. Tant ceux de Sacré-Cœur, de Diambar ou de Génération Foot où il y a, oui, quand même justement une espèce de pouponnière et où on,
oui,
protège.
Oui, qu'on trouve en Afrique des centres de formation, oui, performants, aucun doute. Après le problème est que entre le football africain d'une part et le football européen d'autre part. Il est vrai qu'il y a un moment où il faut quand même quitter le football africain pour aller dans le football européen si on veut vraiment grandir. Maintenant, ce que je dirais pour de manière générale, sans essayer de m'arrêter sur un continent plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a le temps.
Il y a toujours le temps.
Voilà, c'est-à-dire que on est dans une dans un secteur où on pense qu'effectivement un garçon qui a 17 ans n'a pas été repéré et foutu, grosso modo, pour une carrière pro. C'est en partie vrai, mais c'est pas si vrai que ça. Voilà. Et qu'à un moment donné, un garçon de 17 ans, s'il est pas prêt, physiologiquement, psychologiquement.
Il y en a qui se perdent aussi psychologiquement, voilà, alors qu'ils sont, oui, oui, toujours talentueux.
Vous savez, dans les années 80, le premier transfert, la FIFA avait donné des statistiques, le premier transfert d'un joueur, il se faisait à 24 ans et demi. Donc ça veut dire qu'un joueur,
on se souvient, il bougeait Platini, pas. Il part très,
oui,
tard, hein, à la Juventus.
Il bougeait pas avant ses 24 ans et son premier transfert se faisait à cet âge-là. En 2014, on est tombé à 20 ans. Et là, en 2020, on va arriver probablement à 18 ou 19 ans. Donc on voit bien que le football a changé, hein, que c'est pas seulement, c'est ce que j'ai essayé de dire en introduction, c'est pas seulement un problème de joueurs, d'agents ou de famille, c'est l'économie du football qui a changé. Et dans ce contexte-là, il est pas farfelu de dire à un moment à un garçon, écoute, si tu n'es pas transféré à 18-19 ans, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu n'as pas pour autant loupé ta carrière, donne-toi un petit peu de temps dans ton club formateur et peut-être que ton premier transfert sera à 21 ou 22 ans.
Voilà. Merci beaucoup de nous avoir détaillé toutes ces histoires, mais vous restez avec nous et surtout j'aimerais qu'un jour vous reveniez pour nous raconter d'autres choses sur le football et notamment les contrats de joueurs parce qu'il y a toujours des petites choses très intéressantes à savoir et à connaître. On va continuer et justement on va parler d'un joueur, et bien lui il n'a pas éclos à 17 ans et pourtant il devient peu à peu une étoile, au moins une étoile marseillaise.
Dimitri Payet. Il va provoquer, Yann Mbila, il est en train de la surface, Dimitri Payet. Oh, ça c'est bon ça. Oh, l'ouverture du score. Le providentiel de l'Olympique de Marseille, c'est lui. Et il vient marquer son 7e but de la saison. Oh, quel but.
Oh, la passe magnifique de Payet. Sans son pour Radonjić. Radonjić qui va frapper et donner 2 buts d'avance à l'Olympique de Marseille. Le super sub s'est aussi marqué lorsqu'il est titulaire.
Tu connais pas Nabil? Non,
c'est qui ce rappeur?
Un Marseillais, c'est Alice Pro Marseille qui nous a trouvé ça. Même pas peur du chaudron, même pas peur des effluves de gaz lacrymogène. L'OM a hier remporté un match difficile face à Saint-Etienne, mais victoire 2-0, pas forcément étincelante, mais une victoire où a brillé Payet. Avant de parler de Dimitri Payet, cet OM est-il finalement impressionnant de ténacité, de résultats? C'est surtout, Nabil Djellit, la seule équipe des grands championnats européens qui n'a pas encaissé de but en 2020.
Mais quand vous dites grands championnats européens, est-ce qu'il y a la Ligue 1 ou pas dedans?
Oui.
D'accord, c'est juste la question que je pose.
Moi, je le mets.
Poser. Non, mais,
j'espère que vous le mettez.
Hein, notamment après les matchs de cette journée, c'est vrai que parfois on se pose la question.
Hein. Pour moi, c'est 4 plus 1, mais bon.
Parfois, il y a d'autres championnats qui
nous sont... On rappelle qu'au classement UEFA, le championnat de France est le 5e championnat.
Voilà, 4 plus 1. Non, mais elle a des vertus, elle a des valeurs, elle est pragmatique, elle a trouvé sa charnière centrale, c'est la qualité du travail. travail de André Villas-Boas. Elle est solidaire, elle est sur une certaine dynamique. Après, sur le contenu, la qualité du jeu, évidemment, on peut toujours en discuter, mais voilà, on peut toujours espérer mieux, surtout quand on connaît voilà l'ADN de l'Olympique de Marseille, la philosophie de jeu de l'OM historiquement. Mais cet OM est quand même à son échelle, qu'on le veuille ou non, une sorte de rouleau compresseur depuis quelques semaines.
Après Marseille, Salut. Moi, ce Marseille-là me fait un peu penser à celui d'Eli Bop il y a quelques saisons, qui avait fini deuxième, qui n'était pas transcendant sur le terrain, mais qui était
efficace. On a déjà oublié.
Pragmatique. Non, mais c'est vrai. C'est malheureusement le cas. C'est vrai qu'on l'a déjà oublié, mais Eli Bop a fini deuxième avec l'OM.
Non, mais c'est Nabil qui a voulu l'oublier.
Non, mais c'est un fait. C'est malheureux, mais c'est vrai que Eli Bop qui avait fini deuxième avec l'OM, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, mais c'est efficace. Clair, précis, il y a peu de buts encaissés, vous l'avez très bien dit et rappelé cette stat, donc c'est pas transcendant, mais efficace, il y a un joueur clé, Payet, il y a un autre joueur clé, Mandanda aussi, qui revient vraiment en méga forme aussi, faut le signaler, et quand vous avez vos joueurs cadres qui sont là...
Et un petit jeune qui s'appelle Boubacar Camara, qui est en milieu de terrain, en sentinelle, et qui est très fort.
Justement, lui, il a signé son premier contrat professionnel à l'OM, et ça a été l'objet d'enjeux également.
Aussi, ça a été l'objet de beaucoup de débats. Oui. Alejandro Valente, cet OM, 12 points certes derrière le Paris Saint-Germain, mais déjà 6 points devant Rennes, 9 points devant Lille. Est-ce que c'est une équipe qui a une tête de dauphin? Un aileron de dauphin, je ne sais pas.
Elle en prend le chemin, parce que on se posait des questions avant cette journée, à l'issue du week-end. On s'est dit, c'est bon, Rennes est à 3 points, l'OM pourrait être même doublé avant le week-end. Finalement, aujourd'hui, il se retrouve avec 6 points, donc tous les résultats lui sont favorables. Il n'y a aucune équipe qui... à part le PSG, qui est sa régularité. Et donc, ça, c'est un atout considérable. Et puis, bon, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé sur le terrain par rapport à l'année dernière, mais l'entraîneur a changé. Et puis, il y a un Payet qui était un petit peu moins convaincant l'année dernière et qui, là, trouve vraiment toute sa place. Le but qu'il marque est assez incroyable.
Il a pris du poids, quoi. Dans cet OM, quoi.
Nabil, c'est toujours à double tiroir ces phrases, alors on ne sait jamais. On va s'arrêter justement sur Dimitri Payet, numéro 10 de cette équipe, joueur né il y a 32 ans à Saint-Pierre de la Réunion, alors qu'il avait notamment éclos, on va dire, à Saint-Étienne, hein, quand il y est passé de longues années. Il est en forme depuis ce début de saison, lui déjà important à l'époque de Bielsa et qui charme André Villas-Boas.
Il a fait un très bon match à droite. Chercher les espaces sur l'interne. Son but est un but d'un joueur qui est créatif, opportuniste. Parce que Rofi pense qu'il va centrer et Dimitri mettre le but. Et oui, il se trouve dans un bon moment pour nous.
Dans un très bon moment. Est-ce que Didier Deschamps pourrait avoir un regard sur ce Payet? On s'en souvient de lui, c'était à l'Euro 2016. Didier Deschamps a reconnu, c'était en novembre dernier, lors du dernier rassemblement des Bleus, qu'il regarde, mais c'est un oui, mais.
Et Dimitri a fait partie de l'équipe de France, il a fait ce qu'il fallait aussi, une période bien spécifique, c'était 2016, c'était déjà il y a 3 ans, même si après 2016 ça a continué, et puis depuis il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, qui ont répondu à mes attentes, c'est très bien qu'il fasse en sorte de se maintenir à son meilleur niveau. Il est toujours sélectionnable, mais après, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, voilà. Il a très bien répondu quand il a dû être avec nous. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont là. Et le plus important, c'est ce qui est devant nous et l'avenir aussi. Même si, dans l'absolu, ça n'exclut pas que ponctuellement, il peut revenir. Ça serait forcément au détriment de joueurs que j'ai pris et qui ont répondu à mes attentes.
Ah, c'est voilà. Un beau oui, mais, hein.
N'est-ce pas? Mais depuis peut-être le mois de novembre, il y a peut-être d'autres opportunités. Parce que, avec qui est-il en concurrence? Tolisso,
Lemar, peut-être.
Lemar,
non, mais il est plutôt considéré aujourd'hui du côté de l'OM. Il joue sur un côté. Ouais. En équipe de France, on joue pas avec un meneur de jeu. Alors à moins qu'on considère que Griezmann est un 9,5, mais il y a déjà Fekir qui est sa doublure. Ça serait sur le côté gauche. Il y a quand même des difficultés, des joueurs blessés et des méformes. Autant au mois de novembre, il partait de loin. Autant il part toujours de loin, mais de beaucoup moins loin,
à
mon sens.
Et au final, alors je sais pas si c'est psychologique chez lui, mais on remarque qu'à chaque fois avant une grande compète, sur les deux dernières, c'était le cas. Il est très bon. 2016, il avait été excellent et il est donc allé à l'Euro. Ouais. 2018, il a été excellent. Je vous rappelle qu'il se blesse lors de la fameuse finale d'Europa League face à l'Atlético. Mais il avait été très bon jusque-là et
il est privé de Coupe du Monde.
Et on sait qu'il était aux portes du mondial au final à laquelle il ne participe pas. Donc, je sais pas si c'est psychologique, c'est presque calculé. J'en sais strictement rien. En tout cas, il a, comme par hasard, lors des années paires, après, Nabil l'a très bien dit, il est beaucoup mieux aujourd'hui. Et au final, malgré tout, le seul point négatif, c'est que Deschamps, c'est quelqu'un, on le sait, qui tourne très peu.
Fidèle.
C'est effectif, qui
tourne très peu. Là, concrètement, Lemar, il est nul.
Dembélé
est out. Coman revient, mais il faut pas qu'il se reblesse.
C'est ça.
Thauvin, il joue pas. On continue, il y a qui? Martial, il a jamais été fan.
Bon, oui, mais Fekir, on ne sait pas trop.
Non, mais attendez, mais sincèrement, Fekir,
on ne sait pas trop.
On peut se poser la question, c'est quoi, vrai qu'on... légitimement, quoi.
C'est pour ça qu'on vous l'a posé.
Non, mais, mais après, il est pragmatique,
c'est
chiant.
Non, mais s'il n'y a pas de blessure, c'est mort. Parce que encore une fois, des autres joueurs d'équipe de France. Parce que encore une fois, voilà. Mais comme il y a des blessures, c'est pour ça qu'on se pose cette question. Ils ont dit qu'il a peut-être une chance.
Alejandro, et vous le voyez revenir en équipe
de France? Moi, je le vois très bien. C'est un joueur que j'aime beaucoup et je pense que, comme le disait très justement, justement, Nabil, il y a d'autres joueurs qui sont passés devant lui et qui aujourd'hui ne méritent pas d'être devant lui. Donc moi, je le verrai très bien, oui.
On verra ça. Alors, il y a un club olympien qui rit et puis un autre qui rit beaucoup moins. L'Olympique Lyonnais, n'est-ce pas?
C'est pas beau de regarder Maître Grand Turco comme ça. C'est pas beau.
Lyon, qui n'a réussi qu'un pâle 0-0 hier face à Amiens dans son parc OL. Ils ne sont plus que sixième. Il y a une stat un peu cruelle qui a été tweetée hier par Vincent Duluc, notre confrère de l'équipe spécialiste de l'OL. À la nomination de Rudy Garcia, l'OL était à 4 points de l'OM. Il a aujourd'hui 13 points de retard. Est-ce que c'est d'abord la faute de l'entraîneur et est-ce que l'OL va mal selon vous ou est-ce que on s'attend pas à une très grande saison parce qu'elle avait pas très bien commencé?
La première question que je souhaiterais poser, Jean-Michel Aulas a répondu à Vincent Duluc, parce que l'habitude.
Je vais vérifier.
Il s'allume régulièrement sur Twitter.
Vous avez raison, je vais vérifier.
Mais non, c'est clairement une année sans hein, par rapport aux années précédentes. Donc il y a effectivement de fortes chances que, pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'OL ne soit pas sur le podium.
À moins qu'il ne gagne la Ligue des Champions.
Oui, à moins qu'il gagne la Ligue des...
108e de finale. Ah, mais
non, c'est une émission sérieuse ici. Mais sérieux, quoi.
Non, ils sont qualifiés en 8e, je suis désolé. Oui, et ils nous surprennent bien en plus en Ligue des Champions en général.
Oui, mais maintenant, si vous voulez, vu l'effectif dont dispose le coach à Lyon... Il y a effectivement des questions à se poser sur l'investissement d'un certain nombre de joueurs. J'ai vu l'équipe jouer à différentes reprises. Moi, je suis surpris par l'absence de performance de garçons qui se...
Qui, par exemple? Bertrand Traoré? Cornet?
Oui, non, Cornet, ça va encore. Traoré, oui. Il est...
Plutôt bien Cornet.
Oui. Traoré fait partie des garçons qui sont...
Thiago Mendes, on se demande s'il avait envie de signer à Lyon.
Non, mais voilà, il y a des garçons dont je me demande si psychologiquement ils sont vraiment investis du projet de l'Olympique Lyonnais.
Lui, Andersen en défense, avec une dépense forte quand même en début de saison de la part de Lyon, et au final on voit que son niveau est moindre quand même dans cette Olympique-là. Enfin, il y a beaucoup de choix qui ont été faits, des dépenses importantes qui ont été faites par Jean-Michel Aulas, que ce soit l'été dernier et cet hiver aussi.
Il y a une transition qui me semble difficile avec l'arrivée de Juninho comme directeur sportif, qui est une figure à Lyon, mais dont on peut se demander s'il est déjà prêt à être un vrai directeur sportif. Un recrutement qui pose problème, un coach qui est remplacé mais qui n'arrive pas à sortir de l'ornière.
Et
des joueurs qui ne me semblent pas vraiment investis.
C'est une circonstance atténuante pour Rudy Garcia avec les blessures de Depay.
De Depay. Non,
la saison, elle a basculé.
Et René Adélaïde.
Ça a basculé avec la blessure de Depay. Ils ont perdu leur.
Les deux même. Les deux joueurs, même jour, au même match.
Je suis pas certain. Alors, ok, les joueurs, leur inconstance, leur irrégularité, il n'y a pas de souci. Quand ils vont aller signer à l'étranger, ils seront constants et réguliers. Mais je pense qu'il y a aussi une vraie question, et je suis désolé. Est-ce que c'était une bonne idée de nommer Rudy Garcia? Je veux dire, et là, c'est pas de
mais
sa responsabilité.
Mais quand on écoute Thierry Grandtourcault, il a pas l'air de dire que c'est que de la faute, que ça n'incombe pas que à l'entraîneur.
C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre de changements importants au club en très peu de
temps. Mais regardez Manchester United, je crois que la transition depuis Ferguson, n'est-ce pas Salim, elle dure. Ouais. Arsenal, après Wenger et tout, donc c'est peut-être toujours difficile des transitions.
Oui, vraisemblablement.
Ça coûte
en tout cas,
des places.
Jusqu'ici, Jean-Michel Aulas prenait l'ensemble des décisions. Il semblerait qu'il ait voulu laisser un petit peu la barre À d'autres, ça se passe mal. Moi, j'attends le moment où il va devoir la reprendre.
Juste évoquer la blessure de Depay, c'est un fait. C'est le meilleur joueur qui se blesse, donc c'est un gros manque. Jeffrey Adelaide aussi. Enfin, ça vous empêche pas de quand même s'imposer hier à domicile face à Amiens. Et même ça, alors qu'Amiens, ça reste un club moindre par rapport à l'OL, même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, à un moment donné, les autres joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Et ça, en revanche, c'est un fait aussi. Est-ce que les joueurs savent et peuvent prendre leurs responsabilités? C'est un problème peut-être psychologique aussi.
Financièrement, pour l'OL, ne pas aller en Coupe d'Europe, c'est grave.
Non, je pense pas que ça soit vraiment grave.
Non.
Par contre, ça fait
ça fait tâche.
Voilà, c'est ça, ça fera tâche. Aujourd'hui, l'OL financièrement c'est costaud. Structurellement c'est costaud. Ils sont pas en danger. Mais c'est simplement voilà, à Lyon comme partout ailleurs, un supporter n'accepte pas la contre-performance. Et surtout qu'à Lyon, ils n'y sont pas habitués. Hein. Mmh. Encore une fois, plus de 20 ans sur le podium. Cette année, en fin de saison, quand il va falloir faire le bilan sportif et pas financier, ça va être très compliqué pour Jean-Michel Aulas.
Ils auraient dû préparer déjà la saison prochaine. Peut-être qu'il y avait quelques recrutements à pas faire. Se projeter sur les jeunes, des Cherki, des Aouar, des Cacré. Et faire. Je suis d'accord parce que ils peuvent rater la Ligue des Champions une fois. Eux, de toute façon, ça, ils ont l'air insolites. C'est comme c'est une institution.
C'est
pour d'autres clubs en France, c'est plus compliqué. En revanche, moi, je pose aussi d'ores et déjà une question. C'est s'ils se qualifient pas en Ligue des Champions, ça sera avec ou Rudy Garcia à la suite? Moi, je pense que ça sera sans Rudy Garcia. Et je pense que du côté de l'OL, on a dû mettre une clause en cas de non-qualification de la Ligue des en Ligue des Champions. Peut-être. J'ai pas accès au contrat.
Non, il a pas fait le contrat. Ah, Vous avez pas fait le contrat.
Donc ça pose quand même des vraies questions de perspective également pour l'OL, parce que Aulas, c'est un visionnaire, il s'est rarement trompé cette année, on peut dire qu'il a fait quelques erreurs. Moi, je pense qu'il est déjà dans le coup d'après.
Ben, il faut espérer pour cette équipe. Bon, elle est sixième au classement, c'est vrai que ça peut décanter et qu'ils peuvent peut-être accrocher la Ligue Europa.
Non, et voire mieux, parce qu'au final, la troisième place, c'est pas si loin. On sait qu'une simple série de 2-3 victoires vous permet de...
Mais comme Monaco,
il faut la faire. Hein. C'est comme Monaco, on le dit depuis des semaines. Ah, il faut la faire.
Là, il faut la faire. C'est par dimanche, je pars des princes.
Exactement.
Après, tout est possible.
Très alléchant PSG.
S'il n'y a pas Neymar, tout est possible.
PSG Lyon. On verra dans quelle forme est le PSG ce jour-là et à ce moment-là.
Cinéma est toujours touché aux côtes ou pas.
Voilà. Non, mais il n'y aura pas eu d'anniversaire entre-temps.
Ah, bon, ça va.
Allez, on va terminer cette émission en parlant de foot africain, surtout de clubs africains. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Annie.
Vous allez nous aider dans cette phase où sont entrées les compétitions continentales d'Afrique, les quarts de finale. Alors tant pour la Coupe de la Confédération que pour la Ligue des Champions, avec pour ce qui est de la Ligue des Champions, des choses très alléchantes, des belles confrontations en vue.
Oui, on connaissait déjà le plateau et oui. Il est vraiment exceptionnel ce plateau puisque on retrouve dans ce top 8 tous les vainqueurs de cette Ligue des Champions depuis 2005, à une exception, c'était l'Entente de Sétif qui avait gagné il y a quelques années et qui n'est pas là dans ce top 8, mais sinon que du lourd hein, comme on dit, avec pour commencer donc un Raja de Casablanca contre tout puissant Mazembe. C'est une affiche que l'on va bien sûr surveiller de très près parce que le tout-puissant Mazembe a gagné 5 fois cette Coupe d'Afrique, mais la dernière fois, ça commence à remonter, c'était en 2015. Mm-hmm. Et on sait que le club, après avoir connu un petit trou d'air, retrouve toute son ambition et espère bien la gagner cette année. Contre le Raja de Casablanca, donc, qui lui aussi est un grand club d'Afrique, 3 fois champion d'Afrique, mais qui revient lui aussi après une petite parenthèse, le Raja, la dernière fois qu'on les a vus en quart de finale de la Ligue des Champions, c'était en 2011. Donc ça fait une belle parenthèse quand même. Une réaction recueillie par notre correspondant à Lubumbashi, Pascal Mwangala, celle de Jackson Muleka, c'est le nom qui revient.
C'est un garçon qui devrait débarquer. Son nom a été associé à l'OM, tiens.
Ah,
alors je sais pas s'il y a des contacts réellement.
C'est une pépite africaine.
J'ai vu les images, Annie.
Mais Grand Turco, il y a un contrat.
J'ai vu les images, c'est pas mal du tout. Hein.
20 ans, ouais. il a marqué 7 fois en phase de poule
avec la RDC.
Ouais, mais enfin, l'avenir lui appartient. Il a déjà marqué 7 buts dans la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Et il a dit donc à Pascal Mwangala ce qu'il pensait de ce tirage contre le Raja pour Mazembe.
On s'attendait vraiment à jouer un gros morceau comme
le Raja comme le WAC, ça ne sera pas facile. On va continuer à se préparer en conséquence pour affronter Raja. Là, chez eux, on va se préparer, chercher à gagner le match et revenir à la maison à jouer sans pression et gagner le match avant les Turobies. Ça sera le mieux pour nous.
Voilà, avantage pour Mazembe, l'avantage réservé à tous les vainqueurs de groupe, effectivement, le match retour à domicile à Lubumbashi. Un Mazembe qui a été impressionnant en phase de poule, puisqu'ils sont sortis invaincus, comme les Mamelodi Sundowns. Et alors, deux infos données par Pascal Mongala. D'abord, Poutou Trésor, encore fait des siennes, j'allais dire.
Nous, on dit Trésor de Poutou dans Radio Foot.
Oui, comme vous voulez. Ça marche dans les deux sens. Il a été écarté du groupe parce que hier, l'équipe s'est envolée pour Bukavu, pour aller jouer des matchs de championnat à Bukavu, puis à Goma. Et il a raté l'avion. L'avion était déjà en bout de piste quand il est arrivé. Donc, il est écarté du groupe. Et alors, il va manquer... il est écarté jusqu'à le match aller compris. Le quart de finale aller contre le Raja. La deuxième info, c'est que dès que Mazembe aura joué ces trois matchs du championnat de RDC, eh bien, ils quitteront le pays pour aller directement au Maroc et ça représentera donc deux semaines de préparation complète avant le quart de finale. Allez, c'est du sérieux.
Les autres affiches, Christophe.
Alors, les autres affiches. Le temps tourne. Mais oui, mais Mazembe, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Al Ahly, le détenteur du record de trophées, 8 fois champion d'Afrique, recevra d'abord les Mamelodi Sundowns.
Afrique du Sud.
Voilà. Alors, un géant, Al Ahly, mais qui a eu un petit peu de difficulté à se qualifier.
Je les ai vus notamment contre l'étoile du Sahel avec le Malien Liu Jiang au milieu. Qualitativement, ça a quand même baissé. Il y a moins de joueurs égyptiens et puis moins de joueurs de la sélection. Il y a un ailier nigérian qui est pas mal du tout, qui est intéressant, mais c'est pas une équipe qui aujourd'hui m'impressionne. Après, elle a l'expérience,
pas encore souveraine, ouais, c'est qualifié.
L'expérience du terrain africain, mais
voilà,
mais on est loin du grand Ali, quoi, pour être franc.
C'est qualifié pour les quarts de finale à l'issue de la dernière journée, hein, le week-end dernier, en faisant un partout au Soudan contre Al Hilal. Les autres affiches, Zamalek, les Égyptiens aussi, hein, c'est très marqué nord du continent, ces quarts de finale. Le Zamalek recevra l'Espérance de Tunis, double championne d'Afrique en titre. Alors coïncidence, ce Zamalek Espérance, c'est aussi l'affiche de la Supercoupe d'Afrique qui est prévue dans 8 jours au Qatar. Ce sera donc cette Supercoupe, une sorte de répétition, entre guillemets, avant ce quart de finale
entraînement
de Ligue des Champions. Et enfin, la dernière affiche pour la Ligue des Champions, c'est le WAC, le Wydad de Casablanca, contre l'Étoile du Sahel. Voilà ces matchs aller 28-29 février et le retour une semaine plus tard.
Ensuite, la Coupe de la Confédération, là aussi, des affiches intéressantes.
Et on aura évidemment un œil particulier sur l'affiche entre Enimba et Oroya. Jamais un club nigérian n'a gagné la Coupe de la Confédération, Nabil, vous le saviez ?
Non, je le découvre avec vous, mais je sais qu'Enimba a gagné la Ligue des Champions africaine.
Absolument. Enimba a gagné 2 fois la C1 et 2 fois la Supercoupe.
Je les ai vus jouer face aux jeunes du Paradou, c'est pas extraordinaire, donc je pense qu'Oroya a toutes ses
chances. Oroya, et oui, ensuite, en plus, Oroya a fait un parcours assez impressionnant aussi en phase de groupe, avec 6 points d'avance sur le deuxième, donc Oroya peut aborder ce match avec confiance. Les autres affiches, Zanaco, les Zambiens de Zanaco contre l'autre club égyptien, contre Pyramids FC. Les Libyens d'Al Nasser, le club de Benghazi, joueront contre les Marocains du Hassania d'Agadir. Enfin, Al Masri, le club de Port Saïd, contre Renaissance de Berkane, les Marocains de la Renaissance de Berkane, qui sont favoris, eux qui ont joué la finale
c'est une équipe qui
de la dernière Coupe de la Confédération.
C'est une équipe qui émerge depuis quelques temps. Il faut dire que l'ancien président du club est aujourd'hui président de la Fédération marocaine de football, puisque l'Egja est passé par Berkane, si je ne dis pas de bêtises.
Mmh, absolument.
Ça m'arrive de ne pas dire de bêtises.
Non, c'est pas juste.
Tout le temps, l'ami.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, Christophe Jousset, pour cet éclairage sur le foot africain. Merci beaucoup, Maître Grand Tourco, d'être venu nous parler des joueurs et des contrats. Et nous y reviendrons, c'est promis, un jour dans Radio Foot. Merci à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission. Alice Ménard était à la réalisation. À demain.
7 milliards de voisins.